affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Vous souvenez-vous de l'affaire des Balais Roses, ce scandale de mœurs impliquant des hommes de pouvoir et qui éclaboussa les débuts de la Ve République, bien que les racines du scandale plongent plutôt dans les mœurs et les pratiques de la Quatrième. Cette affaire sert de canevas au dernier roman de Jean-Marie Rouart. Un bon choix, puisqu'il y a dans cette affaire elle-même tous les ingrédients d'un bon roman, des ingrédients extrêmement romanesques. Il y a matière à parler d'amour, de sexe, de politique, de désir, de pouvoir. Toutefois, on aurait bien sûr tort de ne voir dans cet ouvrage qu'une volonté de relater des événements historiques. Plus que cela, il s'agit à travers ceci de sonder l'âme humaine, ces éternels élans, éternellement recommencés, éternellement poursuivis et peut-être déçus, tant il apparaît, c'est en tout cas comme cela, monsieur, que nous avons reçu votre livre, que l'homme est définitivement une sorte d'animal un petit peu, non pas dérisoire, mais pathétique dans sa quête délicate de bonheur, alors que dans le même temps, il travaille de façon laborieuse, permanente, à son propre malheur. Voilà la façon dont nous avons reçu votre ouvrage. J'en donne maintenant le titre et vous allez nous éclairer sur ce titre. Il s'agit de La vérité sur la comtesse Berdaïev. Et on me fait les gros yeux, je dois préciser, Jean-Marie Rouart, même si tout le monde le sait à notre antenne, que vous êtes membre de l'Académie française, bien entendu. Avant de commencer, j'ai évoqué les Balais Roses. Peut-être faut-il rappeler ce dont il s'agissait pour qu'on pose ce cadre avant de rentrer dans le cœur du sujet.
C'est l'élément déclencheur, les Balais Roses, les affaires des Balais Roses. Et parce que c'est un vrai roman, c'est pas ce qu'on appelle un docu-fiction, vous savez, où on relate une affaire, même avec, on peut le faire d'une manière très littéraire, mais là, je suis parti de cette affaire. Et pourquoi je suis parti de cette affaire? C'est parce que c'est l'époque en 58, 1958. Le général de Gaulle veut prendre le pouvoir. Et là, il va, c'est mon interprétation, mais peut-être que j'ai l'impression que je ne me trompe pas, il va chercher à éliminer tous les gens qui le gênent. Il va chercher à éliminer François Mitterrand, Antoine Pinay, et le président de l'Assemblée nationale, qui s'appelle André Le Trocquer. Et pour les éliminer, il va pas lésiner sur le choix des moyens. Pour Mitterrand, on sait ce qui s'est passé avec l'affaire de l'Observatoire. Pour Antoine Pinay, on le sait moins. Mais il y a quelques jeunes filles mineures qui ont été mises dans son lit. Et pour le président de l'Assemblée nationale, qui était le plus dangereux, parce que c'était un grand franc-maçon, parce qu'il était un ancien résistant, il avait descendu les Champs-Élysées avec lui en 1944, eh bien, là, on va créer de toutes pièces une affaire qui m'a rappelé, évidemment, il m'a rappelé, parce que pendant que j'écrivais ce livre, un peu l'affaire Fillon, c'est-à-dire l'utilisation, le téléguidage, enfin, le soupçon de téléguidage des juges et des journalistes par le pouvoir politique pour éliminer un adversaire. Et on va créer de toutes pièces cette affaire qui va arriver à éliminer ce personnage qui était gênant. Mais il sera condamné à rien du tout. Il va être condamné à un an de prison avec sursis parce qu'en effet, il a approché d'un peu trop près une jeune fille qui était mineure, enfin qui était à ce moment-là, qui avait 18 ans. Et le but de l'opération, c'était bien entendu de l'éliminer. Ça, je le raconte, ce cadre, mais ce qui m'intéresse au fond, c'est qu'à travers ce cadre, et ça rejoint ma préoccupation, si vous voulez, dans beaucoup d'autres livres, d'analyser à la fois le pouvoir, l'amour et l'histoire. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, et ces histoires éternelles qui se répètent très souvent. Et c'est l'occasion pour moi d'évoquer les Russes blancs. Voilà, les Russes blancs, parce qu'il se trouve que dans la réalité, c'est un élément que j'ai pris dans la réalité, le président Le Troquer, dont j'ai changé le nom, était l'amant d'une comtesse russe. Et alors là, tout est inventé, parce que je lui ai inventé un frère jumeau, je lui ai inventé une mère qui est une princesse, je lui ai inventé à chacun un destin. Et alors là, je me suis ébroué dans ce caractère très romanesque et tragique des Russes blancs, qui sont tous ces Russes qui ont quitté l'Union soviétique en 1917 et qui espéraient être accueillis en France, dans ce pays qu'ils admiraient, qui était un peu leur seconde patrie. Et finalement, ils ont été assez mal accueillis.
Alors précisément, le personnage central de cette petite communauté russe blanche est un des personnages centrales, parce que c'est à travers elle que beaucoup de fils se tissent. C'est la fameuse comtesse Berdaïev qui donne son titre à l'ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ?
Vous savez, il y a une phrase d'Alfred de Vigny que j'aime beaucoup, qui dit, je ne l'ai pas mis en exergue, parce que je l'avais déjà placé dans l'exergue d'autres livres, et ce n'est pas pour faire de la démagogie aujourd'hui vis-à-vis du mouvement des femmes qui s'agitent beaucoup, quelquefois avec raison. Alfred de Vigny disait, après avoir étudié la condition des femmes dans tous les temps et dans tous les pays, je suis arrivé à la conclusion qu'au lieu de leur dire bonjour, on devrait leur dire pardon. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de montrer. J'ai essayé de montrer à travers le personnage le plus décrié, qui est une courtisane, c'est-à-dire une femme. Elle ne vit pas de ses charmes, mais enfin, elle a besoin de protecteurs. Et j'ai voulu montrer, à travers ce personnage, comment les femmes étaient, à ces époques-là, mais peut-être encore, et dans certains pays en tout cas, et peut-être même en France, il y a ce besoin d'une protection. Parce que finalement, sinon, c'est la loi de la jungle. Et que ces femmes, qu'on juge sévèrement, moralement, ont vraiment toutes les circonstances atténuantes. Si vous voulez, j'ai agi un peu à la manière d'un avocat, enfin d'un romancier, parce qu'un romancier n'est pas un avocat. Il montre les ambiguïtés, il montre à la fois le caractère voluptueux de cette femme qui est très belle, et qui voit sa beauté comme une fatalité. Parce que tous les hommes la draguent, tous les hommes veulent coucher avec elle, et elle est poursuivie par le désir des hommes, et en même temps, elle va subir la double peine, parce que non seulement sa mère avait fui en 1917, et elle avait été obligée quasiment de se prostituer à Shanghai, et elle-même va connaître la vie sous l'occupation, où elle fait du cinéma, elle était mannequin. Et là, eh bien, elle va avoir une liaison avec un Allemand qui était, parce que le cinéma était complètement dominé par Goebbels et par l'Allemagne. Et bien entendu, tout cela lui vaudra beaucoup d'ennuis à la Libération. Et puis, pour terminer, c'est dans ces ennuis, il va y avoir cette affaire donc entre guillemets des balais roses, où elle va être la victime. Parce qu'au fond, il faut un bouc émissaire.
Une victime expiatoire.
Et voilà. Et j'ai voulu montrer comment, au fond, le destin s'acharnait sur cette femme qui a beaucoup d'idéal, qui a beaucoup d'aspiration. Et malgré tout cela, eh bien, le destin veut à tout prix sa perte. Voilà, c'est comme dans une tragédie grecque.
Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait, avec un regard un peu trop rapide, considérer que c'est une femme fatale qui cause la perte des hommes qui tombent amoureux, éperdument amoureux d'elle, parce qu'elle est très très belle, et non seulement belle par sa plastique, mais elle est belle aussi par sa prestance, par sa culture, par son charme. Elle est une femme charismatique comme une comtesse russe peut l'être, j'imagine, en tout cas dans notre imaginaire. Mais en fait, c'est fatal pour elle-même.
On la surnomme l'Anna Karénine de la dépravation.
Ce que je veux dire, c'est que sa beauté est peut-être un piège pour d'autres, mais c'est un piège pour elle-même.
Bien sûr, parce que ça attire, évidemment, ça attire le désir des hommes, et parce que c'est ce que j'ai voulu montrer aussi, il y a des femmes qui sont très belles, mais qui n'électrisent pas les hommes autour d'eux, et à partir du moment où il y a cette électricité dans l'air, eh bien, ça provoque à la fois des passions, de l'amour, mais aussi des haines. Et à un moment, quand elle va mettre le doigt dans ce scandale, et il y a même un juge d'instruction qui va être amoureux d'elle, va éprouver une folle passion pour elle, et ça va entraîner pour elle beaucoup de désagréments.
Est-ce que vous me permettez de lire un court passage du début du livre où vous expliquez justement la façon dont elle est obligée de gérer l'attirance qu'elle provoque? Oui.
Oui, oui.
Savait-elle à quel point elle était l'objet du désir des hommes? Comment aurait-elle pu l'ignorer? Le privilège de plaire, de susciter une ardente convoitise, ne lui apparaissait plus seulement comme un agréable atout, mais comme une fatalité. Que de stratagèmes elle devait employer pour écarter ses soupirants, que de manœuvres pour éteindre leurs projets lubriques. On n'imagine pas les ressources qu'il faut employer pour convaincre les hommes de cesser leurs avances sans s'en faire des ennemis mortels. Oui, sans les vexer, sans froisser leur amour-propre sexuel, domaine où ils se montrent plus susceptibles qu'un Turc. Il faut beaucoup d'habileté et de savoir-vivre pour refroidir leur fébrile entêtement et faire comprendre courtoisement aux plus empressés de modérer leurs assauts et de rengainer leur organe viril. Fort bien. Toutefois, c'est aussi son charme, sa beauté sont aussi des armes dont elle use. C'est-à-dire qu'il y a quand même un double jeu de pouvoir. Elle cherche des protecteurs, mais grâce à cette beauté, elle peut manœuvrer dans la société. Est-ce que finalement, imaginer d'autres types de rapports, est-ce que c'est pas s'égarer et peut-être même au-delà des romans, est-ce que c'est ce qui... Je ne connais pas ce qui fait le sel de la vie, cette dichotomie, cette différence.
Je crois que c'est le cas de tout le monde. Tout le monde est obligé de composer avec la société. Et parce que cette société, elle est là, et il faut en tenir compte. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est de voir à quel point les buts de cette femme étaient nobles. C'est-à-dire qu'elle voulait peindre, elle voulait vraiment être... Elle avait une très grande exigence de peindre. Et puis, il a fallu qu'elle nourrisse sa mère, qu'elle nourrisse sa famille, qu'elle ait de l'argent, qu'elle s'en sorte. Voilà, c'est ça, c'est la difficulté. C'est tellement... si elle était restée en Russie, avec cette famille qui était extrêmement riche, possédante, qui avait énormément de palais à Saint-Pétersbourg, c'est sûr que sa vie aurait été différente et moralement, on ne l'aurait pas jugée comme ça. Ça n'aurait pas été une courtisane. Ça aurait été sans doute une femme qui avait quelques amants. Mais ça aurait absolument pas, elle n'aurait pas eu cette image de femme entretenue. Ce sont les circonstances. Voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer. C'est à quel point, au fond, le jugement moral est inadéquat. Et j'ai horreur d'ailleurs des jugements moraux. Parce que, et je trouve que pour le romancier, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre, d'essayer de se mettre vraiment. Dans l'âme de ces personnages pour essayer de voir à quel point l'histoire est un poids dont il n'arrive pas à sortir.
Précisément, ce qui traverse le livre, c'est frappant, c'est la bienveillance dont vous faites preuve à l'égard de tous les personnages. Pas seulement à l'égard de la comtesse Berdaïev, dont on peut se demander à certains instants si vous n'êtes pas tombé vous-même sous le charme de votre personnage, mais l'ensemble des personnages, le petit juge, le procureur, le président de l'Assemblée nationale lui-même, à aucun moment vous ne portez de jugement tranché alors que certains pourraient se prêter une caricature facile. J'aimerais vous dire que c'est rafraîchissant. Ça ne correspond pas à l'air du temps de comprendre les gens.
Mais je n'aime pas le jugement moral à tire-larigot. Et je trouve que, justement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'essayer de comprendre les êtres. C'est ce que le romancier doit essayer de les comprendre parce qu'ils ont tous, quand on les analyse, des circonstances atténuantes. Et j'aime pas le manichéisme, j'aime pas le bien, le mal d'un côté, je trouve cette simplification qui est ennemie de la littérature. La littérature, et le roman en particulier, c'est ce qui permet de montrer des nuances. Je crois pas qu'il y ait des gens complètement mauvais ou des gens qui soient complètement bons. Je crois que c'est très souvent en fonction des circonstances, en fonction de leur enfance, de beaucoup d'éléments qui peuvent jouer. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu les condamner. Et puis, il me semble qu'à l'image de ces Russes blancs en exil, il me semble que nous sommes tous un peu en exil. Voilà, je veux dire, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Ben, il est là pour une période transitoire, et puis un jour, il va disparaître. Il arrive, il est arrivé, on ne sait comment. Et puis, il pose ses bagages, et puis il a à peine le temps de faire ses bagages. Eh bien, il faut partir pour l'au-delà. Donc, vous voyez, il y a cette image de l'impermanence des choses qui me poursuit. Et je trouve que ces ruses blancs sont un peu sont un exemple pour nous. Je crois qu'on peut méditer sur leur malheur, parce qu'au fond, ce sont un peu nos propres malheurs, et particulièrement pour les écrivains, parce que je crois que les écrivains sont du côté des exilés.
Alors, les Russes, à double titre, j'ai l'impression, parce que non seulement ils sont exilés de leur propre patrie, qu'ils ont dû fuir, et dans des circonstances absolument dramatiques que vous rétablissez fort bien, car la mémoire s'en estompe aujourd'hui, mais peut-être aussi parce que la fameuse âme slave, désolé d'utiliser un cliché, les pousse quand même à avoir une relation un peu particulière au bonheur et à la vie, non ?
Oui, mais disons, ce sont des Français un peu exagérés. C'est-à-dire qu'ils sont un peu plus passionnés, un peu plus entiers. Il y a quelque chose... Mais chez certains Français, notamment... C'est pour ça que je pense que notamment chez les écrivains, chez les poètes, qui sont un peu plus exaltés que les autres. Mais j'ai voulu montrer comment il y avait à la fois cette foi en la France, parce qu'ils ont cru vraiment... C'était leur seconde patrie. Hein. Et en même temps... Ils avaient le rêve de revenir dans leur patrie, qu'ils adoraient la Russie. Et évidemment, là encore, il y a eu deux attitudes que j'essaie pour les simplifier. Il y a eu l'attitude de ceux qui sont engagés dans la division Vlassov, c'est-à-dire avec les,
oui, faut préciser
les Allemands, pour reconquérir la Russie. Et puis qui finalement, ça a très mal tourné, puisque donc ils ont été livrés, l'Occident a livré les Russes, la division Vlassov, à Staline, et ils ont tous été fusillés. Et puis il y a ceux qui se sont engagés dans la résistance, parce qu'on l'ignore trop. Dans le réseau du Musée de l'Homme, qui était animé par Jean Paulhan, il y avait notamment Boris Vildé, Anatole Levinsky, et qui ont été fusillés au Mont-Valérien. Et un de mes personnages, donc, est le compagnon, alors c'est une fiction, hein, mais qui est un ami donc, de Boris Vildé, et il sera fusillé également. Donc, si vous voulez, ils ont été déchirés à plus d'un titre.
Au-delà de l'histoire, on sent bien dans tout le roman à quel point l'histoire pèse sur les personnages et peut faire basculer leur destin du bonheur au malheur. Mais vous prenez aussi en compte des éléments beaucoup plus communs, allez-je dire, moins violents et moins extérieurs. Les complexes des uns, l'aspiration sociale, le complexe social, la laideur. On a dit que pour la comtesse Berdaïev, sa beauté pouvait être une fatalité. À l'inverse, la laideur ou le manque d'aisance en société peut en être aussi. C'est le cas de nombre de vos personnages, non ?
Oui, mais est-ce que c'est pas ça qui tisse la vérité d'un être ? C'est au fond ne pas en faire un être de raison, uniquement animé par ses convictions politiques. Je crois qu'on remue un nombre de complexes difficiles, qu'ils soient sociaux, physiques, psychanalytiques. Je crois que c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est ce sont des choses très très obscures. Eh bien, c'est de les éclairer. Et finalement, cette clarté que l'écrivain essaie de projeter sur ces obscurités de l'âme, qu'il éprouve, parce que je pense que c'est ça, au fond, l'écrivain et le romancier est l'intermédiaire entre ces ténèbres de l'âme et finalement une expression qui donne au lecteur l'impression qu'il a pu comprendre quelque chose de l'âme humaine et des comportements. Et ça lui parle. Parce que ça, le but, c'est de parler au lecteur et que le lecteur puisse décrypter quelque chose de sa vie. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup, le Paul Jean Toulet, qui dit « Ô vie, tu n'es que masque, signe et mystère, et peut-être qu'un jour nous saurons de quoi. » Voilà, mais je crois que décrypter ces mystères de la vie, ces mystères de l'amour, ces mystères... C'est très mystérieux, parce qu'à un moment, la comtesse Berdaïev a eu une liaison avec un journaliste à Ibiza, ça a duré une semaine, c'était vraiment une liaison sensuelle, extraordinaire. Et puis à un moment, elle a dit à ce garçon qu'elle aimait, c'était peut-être sa seule passion, elle a dit, mais nous continuerons à nous voir à une condition, ne plus jamais coucher ensemble. Ah, vous voyez, c'est une chose qui n'arrive jamais. Et voilà. Eh bien, c'est l'ambiguïté de cette femme que j'essayais de décrire.
Oui, c'est ce qui fait peut-être tout son intérêt. Si vous évoquiez le fait qu'elle aurait été certainement plus respectée s'il était resté dans sa famille, en Russie, aristocratique, entouré de domestiques, elle n'aurait plus la nécessité de vivre la vie de courtisane qu'elle est obligée de vivre en France et en exil, certes, mais aurait-elle été plus intéressante? C'est pas sûr.
Vous savez, je pense que tous les gens sont intéressants, tous les personnages sont intéressants, mais quelquefois, les circonstances, l'histoire, donnent un accélérateur. C'est pour ça que j'aime bien placer mes romans dans l'histoire, parce que ça donne une sorte de, disons, d'accélération des choses et d'exaltation des choses, parce que les dangers sont plus grands. Mais je vais prendre un exemple écrasant d'une femme qui a vécu dans un très bon milieu, avec un mari, son enfant. C'est Anna Karénine elle-même. C'est quand même, je crois que Tolstoï a quand même réussi à faire un bon personnage, même de quelqu'un qui n'était pas, disons, poursuivi par l'histoire.
Pour les autres personnages, moins fantasques, vous venez de le dire, tous les personnages sont intéressants. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur deux personnages, en apparence plus ternes, plus provinciales pour l'un d'entre eux, de bourgeoisie provinciale, et plus... Bon, commençons par celui-ci, le personnage du procureur qui est chargé de suivre cette affaire. Vous lui consacrez beaucoup de pages. Pour quelle raison?
Eh bien, parce que j'ai voulu montrer ce qu'était qu'un juge. Parce que pour tout le monde, un juge, c'est une espèce de prêtre, de saint, qui est complètement en dehors des problèmes que nous vivons. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un de déshumanisé. Et j'ai voulu montrer à quel point, au contraire, ces juges étaient très, très humains. Mais ils étaient tellement humains avec leur grandeur, parfois, leur mesquinerie, souvent, leurs ambitions, leur désir de légion d'honneur, leur désir d'être muté dans une région agréable, plutôt au sud, plutôt qu'au nord. Voilà, j'ai voulu montrer, et puis j'ai voulu montrer que certains devenaient fous. Je montrais un juge qui devient fou. Et alors c'est très embêtant, parce que la chancellerie est très embêtée, parce qu'avoir un juge d'instruction qui devient complètement dingue. Et alors, on trouve un système, on va le muter à Saint-Pierre-et-Miquelon, où là, le climat, vous savez, qui n'est pas excellent, va arranger les choses. Voilà. Donc, c'est vrai, j'ai voulu montrer que les juges sont des hommes comme vous et moi, qui ont des passions amoureuses. Là, justement, ce juge va tomber amoureux de la comtesse Bedraïev. Il est prêt à saboter sa carrière pour elle. Et puis, voilà, enfin... Ça,
il faut dire, il y a le procureur, voilà, et le juge.
Et le juge, voilà.
Mais ensemble, ils forment un tableau de la justice avec ses grandeurs et ses faiblesses. Alors, c'est ça.
Voilà, mêlés, parce que ce sont des gens qui peuvent être... Et là, je montre pour le procureur, qui est à la fois... Une terreur pour, au palais de justice. Et en même temps, quand il rentre chez lui, il se fait terroriser lui-même par son beau-père, qui est un emmerdeur, qui passe son temps, qui lui donne des complexes parce qu'il n'est pas d'un excellent milieu social. Voilà. Non, c'est la vie. J'ai essayé de montrer à quel point, de rentrer à l'intérieur de ces personnages pour montrer dans leur complexité. Et au fond, essayer de se dire qu'on pourrait les connaître. Et j'essaie quand même de les faire aimer.
Cette volonté vous mène d'ailleurs, je trouve, assez loin par rapport au canon de l'époque. Vous évoquiez ce personnage engagé dans l'armée de Vlassov. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas actuellement le réflexe qui aurait la faveur de nos contemporains. Vous expliquez toute la complexité de ses choix, mais ça s'étend aussi, et là on s'éloigne de l'atmosphère un petit peu moralisatrice, puritaine, qui s'empare de la cité française. Les pages que vous écrivez sur le malheureux président de l'Assemblée nationale, qui est un homme qui veut juste probablement aimer, être aimé, vivre encore la sensualité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont... ces pages-là et votre jugement sur cet homme sont en complet décalage avec ce qu'on vit aujourd'hui. Vous avez certainement la pression.
Vous savez, il y a une chose qui est très importante quand on écrit, c'est la vérité. Et puis il y a autre chose très importante, c'est la liberté. Je crois que c'est deux choses dont il faut user et abuser. Et l'écrivain, vraiment, ce qui est important, c'est la vérité des êtres. Et cette vérité des êtres, elle se passe en dehors de la société. La société veut restreindre notre liberté et notre vérité. Et c'est ça, je crois que le but du roman à toutes les époques, ça a été cela, donner la parole à l'âme personnelle contre la société. La société qui fait ses procès invraisemblables, bon, qui essaie de contraindre, eh bien, voilà, je crois que heureusement, il y a le contrepoids de cette contre la loi sociale, il y a la loi naturelle qui doit essayer. On donne raison toujours à Antigone contre Créon, voilà, contre ces gens qui veulent à tout prix nous enfermer dans une morale et dans des décrets et nous imposer un chemin. Voilà. Je crois que Montaigne a parfaitement montré à quel point, finalement, l'individu est beaucoup plus riche que ce rôle qu'on voudrait lui imposer.
Et aujourd'hui, l'ambiance de la société actuelle, la façon dont les relations entre les hommes et les femmes sont décrites, ça vous inspire quoi au regard de ce que vous venez de me dire?
Vous savez, on a l'impression qu'on a beaucoup évolué et que nous sommes devenus maintenant, on a fini l'obscurantisme, fini le Moyen-Âge, ces époques affreuses où il y avait des procès en sorcellerie. On a l'impression que les sorcières sont revenues et que maintenant elles ont changé. Et si vous voulez, je crois, et c'est là où c'est important d'avoir un regard d'historien. Moi, je ne suis pas historien, mais un regard d'historien, un regard essayer de dépasser les contingences. Eh bien, je crois que à toutes les époques, on a besoin de faire des procès moraux aux gens. Les malheureuses sorcières, on a fait les frais. Et aujourd'hui, eh bien, chacun a besoin de ces procès en sorcellerie, ses besoins de ces tabous. Et les tabous changent. Simplement, il y a c'est ce que Hegel a appelé le retour du négatif. Je crois que ça change. Voilà, c'est l'inverse. Dans une société maintenant, mais je trouve que c'est par rapport pour la France, qui a été le pays de la liberté d'expression, qui a été un pays merveilleux de liberté d'expression, et qui a été en même temps un pays de légèreté et de profondeur. Je crois qu'aujourd'hui, évidemment, on traverse une mauvaise période. mais il ne faut pas s'en faire trop, parce que ce qui est important, c'est que les écrivains, mais pas seulement les écrivains, enfin beaucoup d'hommes, soient là pour montrer que cette vérité, cette recherche de la vérité demeure et qu'on ne se laisse pas emporter par cette vague de puritanisme.
Dans l'énoncé que vous faites de ce scandale, il y a aussi en filigrane comme un refus ou un malaise qu'on imagine que vous ressentez face à la volonté de transparence qui est celle de notre société. C'est peut-être un des mots-clés de la façon dont nous envisageons les gens, leurs secrets, leurs faiblesses, leurs blessures, leurs désirs aussi. On voudrait que tout soit mis en pleine lumière. C'est peut-être de ça aussi dont souffre finalement la comtesse Berdaïev.
Oui, mais c'est le propre d'un tribunal. Un tribunal, eh bien, met tout à plat. Et toutes les petites choses que vous avez pu faire, un peu illicites, qui ne sont pas très jolies, vous avez pu... Personne n'est parfait, hein, mais je ne crois pas. Eh bien, subitement, dans cette lumière crue et impitoyable d'un tribunal, subitement, l'homme est à nu et il est sans défense, sans excuse. Voilà. Alors que dans la grisaille, dans l'obscurité, au fond, Et moi, je crois que c'est très important qu'on préserve un peu la vie secrète des gens. Tout n'est pas fait pour être montré. Et puis, je vous dis, tout ça pourquoi? Pourquoi? Pour dénoncer et pour essayer de mettre des gens au pilori. Mais ces gens, qui sont-ils? De quel droit est-ce qu'on mettrait les gens au pilori? Non, je suis contre contre la République des juges et contre la République morale. Voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose qui est inhumain. Je crois que l'humain, justement, c'est essayer de laisser à l'individu la possibilité de s'exprimer dans sa richesse, dans sa diversité.
Vous parliez tout à l'heure du mystère, vous préservez le mystère. Vous disiez que le roman permettait d'éclairer ce mystère, de s'en rapprocher. Mais espérons finalement qu'on ne parvienne jamais à le percer totalement, non?
Oui, mais le propre d'un roman... Et c'est le cas de tous les grands romans. Hein. Je suis écrasé par ça. Quand vous lisez Guerre et Paix, quand vous lisez les romans de Balzac, vous vous rendez compte que les personnages qui sont décrits, finalement, ils vivent, ils continuent à vivre dans votre esprit, mais au fond, ils n'épuisent pas leur course. Ils continuent à vivre, et même quand vous lisez, La Recherche du Temps Perdu ou d'autres livres, eh bien, vous retrouvez quelque chose de nouveau. Et vous retrouvez ces deux éléments qui sont tellement importants dans la littérature, c'est l'excitation de l'imagination, parce que ça vous amène à toujours vous emporter dans un autre monde, et en même temps la consolation. Je crois que c'est important de la littérature. Je crois que c'est Françoise Sagan qui donnait à ses amis quand ils avaient un problème. Elle disait, vous allez lire comme des ordonnances de médecin, vous allez lire telle page de La Recherche du Temps Perdu ou tel livre d'Alexandre Dumas. Parce que ça permet de soigner. Voilà, je crois que ça soigne. Et nous avons besoin, dans notre époque, vous savez, il nous manque quelque chose que toutes les sociétés ont eu et que nous n'avons plus, c'est une mythologie. Et la littérature... C'est la nouvelle mythologie. Et au fond, nous vivons, enfin, beaucoup d'entre nous, heureusement, vivent avec ces personnages de Rubempré, des personnages de Baudelaire, de Verlaine. Voilà, à la fois des romanciers eux-mêmes ou des poètes, et en même temps, leurs créatures.
Et désormais avec la comtesse Berdaïev.
Merci.
Dans notre panthéon, comme un archétype quand même, et un type humain un peu obsédant. Alors, ce qui m'amène à parler du désir, parce qu'effectivement, c'est une figure qui suscite le désir, nous l'avons dit. Est-ce que dans la même lignée de ces réflexions que vous venez de nous livrer sur la transparence, est-ce qu'il n'y a pas un grand malheur aujourd'hui à vouloir extirper du désir, et notamment sexuel, sa part sombre? Oui. On revient à ce désir de transparence. Est-ce qu'on ne va pas créer des malheurs plus importants encore en voulant en faire une affaire purement hygiénique, morale, simple, sociale, alors que un sexe est masculin en quelque sorte?
Oui, mais c'est vrai qu'on est dans le matérialisme. D'ailleurs, vous remarquerez, on parle dans les romans, on ne parle plus du tout d'amour, on parle de sexe. Dans les livres les romans de Houellebecq, jamais on vous parle d'amour. Et je crois que c'est vrai que la décristallisation, la disparition du religieux, a retiré à l'amour, au fond, sa force. Et je crois que la religion, étrangement, la croyance, donnait une lumière supplémentaire à l'amour. Ça, je crois que ça, c'est quelque chose qui est différent. Et ce désir, toute cette vie voluptueuse, je pense qu'elle est aussi due à l'esprit. Je crois que c'est les femmes très séduisantes, ce sont des femmes qui ont beaucoup d'esprit, ce sont des femmes ou bien de l'esprit ou bien de la bonté. Je crois que c'est Monterland qui disait « on va me prendre pour un pervers sexuel », mais ce qui m'excite le plus chez une femme, c'est la bonté. C'est vrai que c'est extraordinaire de voir quelqu'un qui a de la générosité, qui a de la bonté. Voilà. Et puis aussi l'esprit, parce que l'esprit, c'est ce qui allume des étoiles dans les yeux.
Mais là, vous parlez d'un côté lumineux. Hein. parlez d'un côté lumineux de la sexualité, du désir, dans le livre, à bien des moments où vous évoquez aussi cette face sombre qui existe et qu'il vaudrait peut-être mieux simplement accepter.
C'est la phrase de Valéry qui disait « La volupté, cet éclair qui n'illumine rien ». En effet, c'est un éclair, mais je pense que c'est cet élément qui, au fond, montre aussi la poursuite de la vie, de la richesse de la vie. Je crois qu'on ne peut pas... qu'est-ce que c'est qu'une vie sans amour ? Est-ce que c'est vraiment une vie ?
Le personnage cherche l'amour, et parfois, de façon beaucoup plus simple, ils en appellent simplement au bonheur. C'est un mot qui revient à plusieurs reprises. Un personnage qui hésite d'ailleurs entre l'amour fou, la passion d'un côté, incarné par un type de femme, et une autre qui se trouve être celle qu'il avait choisie précédemment, mais ça a été chamboulé par l'éruption de la seconde, et une vision d'un bonheur domestique plus calme. Mais au final, comment résoudre cette contradiction ? Il dit simplement « je voudrais le bonheur ».
Oui, mais ça...
Mais tous comme ça, c'est ça que vous
avez dit. Bien sûr. Mais cette opposition, vous savez, quelquefois, il y a des gens qui cherchent le bonheur, une vie calme, et puis, subitement, la femme qu'ils adoraient part du jour au lendemain, disparaît, voilà, elle les quitte. Donc, vous savez, je crois qu'on ne peut pas prévoir le bonheur. Je crois que le bonheur, c'est aussi une forme de l'acceptation. J'ai frappé, je voyais un reportage sur Lourdes. Et il y avait un prêtre très intelligent qui disait ce que les gens viennent chercher ici, ce n'est pas la guérison, c'est l'acceptation. Et j'ai trouvé que c'était magnifique. Et je trouve que ça va bien pour le roman, si vous voulez. Je crois que lire un roman sur le malheur en amour, comme dans Proust, la prisonnière, que j'ai lu tellement souvent, quand on est quitté par une dame... Et bien, c'est vrai que ça fait du bien de se rencontrer dans un très grand écrivain et de rencontrer l'universel de la souffrance. Mais je pense surtout que ça ne vous amène pas à une guérison de vos souffrances. Ça vous amène à cette chose supérieure, quand même, qui est l'acceptation. L'acceptation et se dire, au fond, une vie, ce n'est pas fait toujours pour rigoler. Mais en même temps, ça, il y a des perspectives qui sont universelles.
Ce qui vous plaît peut-être aussi chez les Russes, non, et les Russes blancs, il y a une part d'acceptation et de quand même une sorte de fatalisme.
De fatalisme, oui, oui.
Flamboyant, mais fatalisme même.
Ah, de fatalisme, c'est sûr, c'est un peuple qui a en lui-même une sorte d'acceptation, mais un mélange d'acceptation et de révolte dans lequel je me retrouve très bien.
C'est un fatalisme révolté et bouillonnant. Dans l'ensemble des... De cette galerie portrait, finalement, c'est la nature humaine elle-même qui se dessine. Chacun sont des archétypes, mais c'est le tableau d'ensemble qui compte finalement. C'est un peu une petite comédie humaine que vous avez faite.
Écoutez, le terme me plaît, évidemment, mais c'est vrai que ce qui est important, peut-être, c'est la variété des êtres humains qui sont nécessaires. Moi, je crois que parfois, on se dit, dans notre vie, on aurait préféré ne pas rencontrer des gens méchants. Vous savez, des gens qui sont atroces, des gens odieux, des gens malfaisants. Et c'est la question du mal que vous posez. Mais pourtant, ce mal, il est nécessaire. Il est nécessaire parce que sinon, il n'y aurait pas de bien. Sinon, on ne serait pas tellement émerveillé devant l'attitude de ce gendarme Beltrame qui s'est sacrifié, c'est magnifique, ou les moines de Tibérine. Il y a des gens qui haussent le niveau de l'humain, et ça c'est important. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plutôt moches, mais c'est peut-être ce qui donne ce contraste et qui permet d'aimer l'humanité. Ce sont ces exemples de saints ou de héros.
Nous sommes tous un peu des saints et des héros à tour de rôle. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en observant cette galerie de portraits, le mouvement initial, c'est de réaliser que nous sommes un peu tous les personnages à la fois.
Oui.
Successivement bah, et oui. à la fois.
Eh bien, si vous avez pu vous identifier, eh bien, ça prouve que je n'ai pas complètement raté mon objectif, parce que c'est le but. C'est le but, c'est finalement rentrer dans l'humanité avec toutes ses variétés et toute sa richesse.
Écoutez, je pense que nous pouvons inviter nos auditeurs à... Il ne faut pas tout déflorer, nous sommes restés dans des conversations abstraites pour ne pas réveiller les multiples rebondissements du livre, car il faut rappeler que ce n'est ni un docu-fiction, ni un essai, mais bien un véritable roman avec des personnages très incarnés, auxquels on peut certes s'identifier, mais que l'on suit avec compassion, avec amour, parfois avec crainte pour le destin qui est le leur. Bref, un vrai roman, une vraie narration. Et pour ne pas la déflorer, le mieux est d'inviter nos auditeurs à poursuivre, à les accompagner en se plongeant dans le livre, car c'est la meilleure façon de découvrir un livre. Mais peut-être voulez-vous ajouter une dernière chose avant que je donne les
références. Non, vous l'avez très bien défini.
Il s'agit donc de la vérité sur la comtesse Berdaïev, mais au-delà de la vérité sur la comtesse Berdaïev, bien des vérités sur la nature humaine, par Jean-Marie Roard de l'Académie française, aux éditions Gallimard, dans les collections blanches, bien sûr. Merci beaucoup.
Merci. Thank you.